Donc on va continuer en fait dans les autres sections du festival avec le scandale asiatique de Cannes, The Villainess. Bah apparemment c'était un scandale en fait.
Que le film a une portée déjà.
Pourquoi tu l'as contredit comme ça?
Parmi les accrédités en fait de Cannes, puisque vous l'avez vendu comme vraiment le film à chier.
Non,
tu l'as pas vu toi?
Bah, je l'ai pas vu parce que tu l'as vendu comme le film à chier.
Donc, et donc on s'est rattrapé en fait à l'étrange festival. Marc, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah déjà, est-ce que tu peux nous résumer rapidement?
Oui, alors pour résumer le film, il s'agit d'un film assez multivitaminé.
Donc, je vais rappeler quand même le nom du réalisateur. Jong Byung-gil.
Merci.
Voilà, classique.
Confession of Murder.
Confession of Murder.
Absolument, donc c'est son deuxième long métrage. Et donc, ça parle d'une jeune femme qui a été entraînée dès sa plus jeune enfance à être une tueuse professionnelle. Et qui, un beau jour, on va dire à l'aune de sa vingtaine, se fait récupérer par une sorte de société secrète, une sorte d'amicale des jeunes tueuses. qui est une société qui entraîne des personnes à être des tueuses professionnelles, sachant qu'elle était déjà à la base. Et donc ensuite, c'est.
Elles font aussi la cuisine et actrices.
Voilà, elles font la cuisine, elles sont actrices, elles font du théâtre. Et ce qui est assez étonnant, c'est que cette société est tellement institutionnalisée qu'une fois qu'elles sortent de cet institut, elles doivent être disponibles pendant 10 ans pour cette société pour tuer des gens. C'est un peu comme l'ENA. T'as passé l'ENA pendant 10 ans, tu dois être en disponibilité. Donc c'est un peu l'ENA du crime. Et donc cette fille-là passe le casting dans cette société secrète de tueuse, et ensuite elle doit tuer des gens comme ça un petit peu selon des contrats en fait qu'on lui insigne. Et donc voilà un peu le scénario de base du film, sachant que le film commence par une scène assez violente prise un petit peu à la Doom en vision subjective, ou qui dure à peu près, ça doit durer 6-7 minutes, où en gros c'est une fille qui dézingue une cinquantaine de personnes toute seule, peut-être même 70.
72 exactement.
Voilà. Tu as fait le compte exact.
J'ai pas fait le compte exact, mais ils auraient dû mettre une jauge comme dans les jeux vidéo.
Comme dans Outshot 2.
Voilà, absolument. Et donc ça part dans tous les sens, enfin il y a des scènes de violence, de baston, mais... ce qui est étrange, c'est que à la fin du film, en fait, on n'a pas compris, en fait, quel était l'intérêt du film. Et en fait, le scénario est assez vide, assez creux. Il y a des flashbacks, il y a une tentative d'histoire d'amour.
Ils remplissent ce scénario très creux par un montage qui est un peu compliqué à suivre au début.
C'est un montage interlope.
Quand tu résumes le scénario, en fait, il y a
une scène de voiture et de bus qui est encore plus pourrie que la scène de bagnole dans Azura qu'on avait vu au FSCP.
Et pourtant, ça partait loin.
Donc voilà, en fait, le film, c'est une sorte de gloobie-boulga de scène d'action pure, mais pour un scénario qui est creux et assez vide finalement. Donc on ressort du film, on n'a pas passé spécialement un mauvais moment, mais on a passé un moment, quoi. Merci pour ce moment.
Surtout, on n'a rien compris, en fait.
Voilà. Moi, du coup...
Vas-y, Victor, défends le film.
J'avais compris, d'ailleurs, que l'agence de tueux, c'était une agence gouvernementale, d'ailleurs, ça s'appelle The Agency, et qui travaillait plus ou moins pour le gouvernement.
Ça, on le sait pas.
T'es le seul à avoir compris ça, c'est pas du tout expliqué.
Mais c'est subversif, quoi. C'est qu'ils entre les lignes, bordel.
Ce qui est possible, parce que, effectivement...
Non, mais c'est possible, mais c'est pas...
Il est là, peut-être, t'as une explication là-dessus.
Non, elle n'a pas non plus,
Ce qui est possible, mais effectivement,
l'existence de cette agence.
Le scénario, en fait, elle est recrutée au début par cette agence parce qu'elle a tué un boss de la mafia et elle sort de prison. Et en fait, elle passe de la case prison directement à cette agence qui s'appelle The Agency. Donc,
elle va là parce qu'elle branche son copain.
Accès.
C'est bien, c'est que personne n'est d'accord. Le reste nous a dit qu'elle avait élevé.
Du coup, pour moi, c'est vraiment une agence gouvernementale et ça nous parle de la manière dont le gouvernement en fait arrive à.
Mais voilà, merci Kevin.
En fait, c'est un peu Rashomon pour savoir quel est vraiment le scénario du film.
Non, mais le début, c'est bien la scène où elle vient venger son mec qu'elle aime.
Donc elle n'est pas allée en prison, elle va pas en prison.
Mais si, puisque à la fin, elle est arrêtée par la police. À la fin de cette scène, elle tombe dans la ruelle, il y a des policiers qui l'arrêtent.
Oui, mais
elle va à la police.
Parce qu'on voit des gens qui la surveillent sur un moniteur vidéo et qui disent... cette fille, ok, on peut en faire quelque chose, du coup, amenez-la à cette...
Amenez-la,
on va la recruter dans cette agence. Et donc, du coup, on peut l'interpréter comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Mais en fait, comme tu le dis, Marc, ça n'a aucune importance parce que le scénario est ultra basique, très complexifié par des scènes de flashback, de flash-forward, etc., qui n'ont absolument aucun intérêt. Et oui, on est finalement dans une histoire qui mélange très paresseusement Nikita, qui
est
avec le mentor avec lequel elle se marie et qu'elle doit finalement tuer parce qu'elle a tué son père à la fin. Ça, c'est pas tout à fait qu'il dit, mais ça reprend, ça reprend Kill Bill.
Bon, on a un peu spoilé le contraire du scénario, mais c'est pas très grave.
Très grave.
Et finalement, John Wick, et moi je trouve que l'intérêt du film, c'est finalement
cette scène d'action. Compris, c'est
ça. Qu'on a rien compris, en fait. Enfin, moi je trouve que c'est très compréhensible, mais en fait, on s'en fout complètement. Et du coup, ouais, l'intérêt, c'est cette scène d'action, c'est-à-dire qu'on a une scène de 15 minutes au début où elle.
Il y a plein de
problèmes à tuer, c'est 72 mecs qui est quand même filmé d'une manière assez originale puisqu'on reste sur la caméra subjective. Et du coup, effectivement, moi j'avais vu Atomic Blonde juste avant et je trouve que les scènes d'action restent plutôt plus marquantes que sur Atomic Blonde.
Le plan séquence d'Atomic Blonde, il vaut toutes les scènes
d'action. On va pas partir sur un débat d'Atomic Blonde.
Sauf que là, c'est une succession
de scènes d'action.
John Wick.
Voilà,
parce que c'est un mec.
C'est une succession de scènes d'action qui sont assez réussies quand même.
Mais pas toutes. Non. Enfin, t'as l'impression, t'as le début.
Mais il y a
la poursuite en moto. Mais le d'ailleurs, il y a un petit côté Matthew Vaughn avec le faux plan séquence super truqué, mais avec des plans impossibles.
Comme s'il avait inventé des trucs, Matthew Vaughn.
Mais non, mais en fait, ça fait partie. C'est assez nouvelle catégorie de réalisateur qui a. Se défait un peu des limites de l'espace imposé par la caméra physique.
Ah, tu parles de Tsuer.
Pour voilà. Mais c'est pour ça, tu vois. C'est ça, tu vois. On fait le lien. Et qui essaye d'inventer des nouveaux manières de filmer l'action avec parfois un peu trop de numérique parce que la caméra physique ne peut pas permettre ces angles ou ces mouvements là. Et on retrouve ça dans The Villainess.
Non, mais ça marche super bien, à part une scène où tu te demandes, effectivement, tu vois des corps qui sont déchiquetés parce qu'ils sont éjectés de camions.
C'est ça, non, mais sauf que t'as cette séquence-là.
Mais les prises de vue sont des prises de vue qui sont complètement inédites.
Voilà, mais comme Matthew Vaughn,
donc
Chris Wayne 2. Mais du coup, pas tout le film est comme ça, c'est super régulé parce que pendant pendant 2 heures au milieu du film, t'as des scènes d'action qui sont surdécoupées en 15 plans à la manière du vieux Olivier Mégaton, le premier venu dans la rue, tu vois.
Et du coup, Mécan 3.
La scène voilà. Réelle, la scène réelle.
Voilà, c'est un peu ça, tu vois, et tu comprends pas, c'est même pas le même réalisateur, quoi. T'as l'impression qu'il t'avais la scène de début et la fin qui l'intéressait et tout le reste.
Mais peut-être qu'il aime Olivier Mégaton.
Et du coup, ça donne un film super. Déjà, au niveau du cerveau, vous disiez, on comprend rien, on s'en fout, machin. Et non, c'est super réglé au niveau de l'action aussi.
Moi, j'ai tort et à compter. Hein.
Fabien
En soi, le concept de du subjectif qui ouvre la scène d'action, au début, là, il y a tout un film en entier qui a été fait là-dessus. La dernière, c'était Hardcore Henry. Il y avait même le clip de The Weeknd, de False Alarm, qui était fait comme ça. Voilà, j'ai oublié son nom, mais c'était largement mieux foutu que ça. Parce que autant la scène d'ouverture, elle est quand même. Très bien faite, mais autant la scène de fin où ils se battent sur le bus, où elle conduit sa bagnole en étant sur le capot, à un moment donné, faut arrêter de déconner. Quoi. J'ai l'impression qu'il y a un manuel de regarder ce que je sais faire et que à un moment donné, ils se soucient même plus de la cohérence du récit qui parle, qu'il traite, pardon, et on voit toutes les ficelles, on voit l'espèce de spoiler qui va arriver sur son mec mort, ça on le sent arriver. Il y a tout aussi une problématique sur la chirurgie esthétique aussi qui sert pas à grand chose.
Ah putain, oui, ça sert à rien.
Au final, histoire de te dire, bon,
ça, j'ai oublié ce détail.
On a une actrice au début, mais finalement, on en a une autre sous le coude, donc on va prendre elle. Il y a toute une intrigue aussi avec une petite fille, puisqu'elle c'est une maman. Et en fait, la petite fille ne sert à rien dans le récit, à part à relancer le courroux de cette tueuse à la fin du film, on va dire. 2 heures pour ça, c'est quand même un petit peu du foutage de gueule, je trouve.
Lila, je pense qu'en fait le problème de ce film c'est que voilà, il voulait nous remettre plein les yeux au niveau action, il est parti dans la surenchère, parfois un peu trop effectivement, comme tu disais, la scène de fin, Bon, d'un certain côté, elle est quand même sympa à suivre. Enfin, c'est quand même assez jouissif.
C'est surtout qu'on s'est exagéré. Elle arrive après une demi-heure de romance inutile.
Entre les deux, autant le fait qu'on comprenne pas grand-chose au scénario, ce que sont ces agences, etc. Je trouve que c'est pas trop grave parce que au final, on prend son point de vue à elle et elle non plus, on comprend pas trop. Elle est ballottée par des gens.
La question.
Voilà, les objectifs ce sont pas les siens. Elle se retrouve enrigadée là-dedans et effectivement, elle va tuer des gens sans savoir pourquoi, pour qui. Mais voilà, c'est ça la vie tueuse. Non mais. Voilà. Au fond, on n'a pas besoin de savoir parce que l'efficacité du film, voilà, c'est une tueuse. On lui dit pas pourquoi elle fait ce qu'elle fait, mais elle fait ce qu'elle fait. Mais effectivement, pour remplir le film, pour qu'il fasse une certaine durée, ou peut-être simplement parce que le réalisateur avait envie de faire ça, on a au milieu effectivement un énorme ventre mou où on va, pratiquement pas y avoir de scène d'action ou alors des scènes d'action très banales. On le disait tout à l'heure. Où on va suivre sa romance avec en fait un autre agent qui se fait passer pour son voisin, voilà, pour la garder sous contrôle. Il va y avoir deux ou trois scènes drôles, mais c'est bien peut-être 20 minutes, mais il n'y a pas besoin de faire durer ça aussi longtemps. C'est super banal, c'est pas bien écrit. L'an dernier, on avait à l'Étrange Festival qui était un film où vraiment il y avait un mélange des genres, où pendant 40 minutes c'était une comédie romantique super mignonne et tout, qui était parfois un peu lourde mais qui marchait quand même super bien, et qui tout d'un coup tranchait et devenait un thriller super froid, etc. Mais là c'est pas du tout comparable. La rupture de ton, elle est totalement ratée. Et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment un dynamisme, de belles scènes dans ce film, et on sait pas pourquoi il a voulu pendant une heure nous balader dans la vie de cette nana pour explorer plus sa psychologie, sauf qu'en fait elle est inintéressante.
C'est typiquement le film où là il aurait fallu suivre le modèle A Day et avoir un long métrage de 90 minutes parfaitement calibré, où tu reprenais exemple sur certains films japonais des années 70, La femme scorpion, Les menottes rouges, où tu avais ton concept que tu menais de A à Z sur 90 minutes, même moins des fois 80 minutes, et là tu avais le truc nickel. S'il avait fait un pur film d'action, justement à la John Wick, comme le premier, où il tenait son truc pendant une heure et demie et il le lâchait pas, là on aurait eu un divertissement efficace où les idées de mise en scène auraient été constantes sans ventre mou. Et c'est vrai que quand tu vois la scène d'action d'ouverture et la scène d'action mielleuse qui se passe dans la résidence entre elle et le jeune agent infiltré, tu te dis c'est pas le même mec qui est derrière la caméra, c'est pas possible. Mais bon, tant pis.
Et il semble, je crois, que le film a un distributeur, il y aura une sortie salle en France, en plus.
C'est One Punch qui le distribue normalement, qui va sortir en salle.
On en reparlera donc, en fait, une dixième fois. Ah, on en parle c'est de mieux en mieux, notre discours dessus, donc on sait jamais, ce sera peut-être le chef-d'œuvre de l'année 2018.
Ah, je crois pas.
On passe au nouveau film de Nishimura Yoshihiro, Kodoku Meatball Machine. Marc.
Ouais, donc là, on... part un petit peu dans le grand guignol avec ce film issu de l'ex-franchise Sushi Typhoon. Donc là c'est du goresque, c'est du gaguesque, mais pas si gaguesque que ça, puisque au final le film que j'ai trouvé assez moyen est dans le gag, mais également il tente de passer un message un petit peu sérieux sur le sens de la vie. Et sur le sens notamment de la vie japonaise contemporaine, et ça j'ai trouvé que ça tombait un petit peu à plat, même si la toute fin du film réduit à néant tout cet espoir de faire du moralisateur. Donc là il reste un petit peu dans le côté Monty Python asiatique, mais j'ai trouvé le film très, très long. Et
il dure combien de temps?
Il doit durer 1h40, je pense qu'en 1h20 il aurait fait le tour. Mais il y a malgré tout quelques envolées qui sont quand même très intéressantes. Les maquillages sont toujours aussi bien faits, ça on peut pas leur accorder le doute là-dessus. Mais malgré tout, j'ai quelques réserves. Je trouve que il y avait moins le côté nihiliste des films qu'il faisait il y a 2-3 ans. Comme si être adulte pour lui c'était devenu être un peu chiant et moralisateur. Voilà. Et j'ai pas parlé du scénario, mais Kefren va le faire.
Kefren, vas-y. Ah bon ? Non, mais t'avais envie de dire quelque chose sur le film que t'avais... Comme quoi t'avais bien aimé, donc je te laisserai raconter l'histoire.
Mais justement, j'ai bien aimé pour la raison que Marc a évoquée.
Mais ça parle de quoi ?
Ça parle de quoi ?
Parler du scénario, c'est spoiler la fin.
Alors, c'est l'histoire d'un quinquagénaire... dont le métier est en fait de récolter les dettes parmi les personnes qui ne paient pas leur loyer, ce genre de choses, qui ne paient pas leurs assurances et tout ça. Il travaille pour une espèce d'agence un peu frauduleuse. Et ce type-là, il est tout seul dans sa vie, et en fin de compte, là, il vient d'apprendre qu'il est diagnostiqué d'un cancer. Et sa maman, elle appelle tout le temps parce qu'elle lui demande de lui prêter de l'argent pour jouer au mahjong ou je sais plus quoi. Enfin bon. Et là, il tombe amoureux d'une jeune libraire, ouais, c'est ça, d'une petite nana qui bosse dans une librairie. Et ce type-là apprend qu'il va mourir et tout le monde le déteste, personne ne l'aime. Il se fait même à un moment donné agresser par un gamin dans la rue. Et les flics pensent que c'est lui qui agresse le gamin parce qu'il fait une crampe au gamin. Donc c'est un mec qui a vraiment pas de bol. Donc il est en mode pourquoi je veux mourir. À un moment donné, ils nous feront presque la scène de vivre d'Akira Kurosawa, où il y a un moment, il y a une espèce de moment de réflexion existentielle alors qu'il est sur une balançoire. Donc, ça, bon, voilà. Et pendant ce temps-là, on voit deux femmes qui tracent des lignes peintes dans la route, des lignes de traversées. Et ensuite, d'un coup, le film switch en Meatball Machine, puisqu'on a cette espèce de cloche transparente géante qui ressemble à une batterie. Oui. Qui arrive et qui coupe les gens qui sont à la frontière
du mur. C'est comme un dôme de
Stéphane. Voilà, une dôme. Voilà, quand une dôme se forme, les personnes qui sont dans la limite du dôme se font couper en deux. Et d'autres qui deviennent des personnes avec des super pouvoirs. En fait, l'idée, c'est que les extraterrestres, ce sont des êtres miniatures qui sont dans des machines, qui s'incrustent sur votre tête et qui vous pilotent et qui vous transforment en amas de chair et de rouages mécaniques. Et on voit d'ailleurs les petits extraterrestres qui sont des espèces de petits Pokémon qui vous pilotent dans le cerveau avec des petites.
Et ils donnent le pouvoir selon les obsessions.
Voilà. Voilà. Sauf que ce héros-là, vu qu'il a le cancer, en fait, le cancer tue l'extraterrestre qu'il a dans sa tête. Sauf qu'il est humain, il est en pleine possession de son identité, mais qu'il a les super pouvoirs. Donc il doit lutter contre les autres extraterrestres humains méchants. Tout en protégeant la jeune libraire dont il est tombé amoureux. Et en parallèle de ça, il y a une espèce de petite milice qui est dirigée par un prof de kendo.
Ouais, qui sont les policiers qui s'entraînent.
Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Il est à la tête d'une petite équipe. Alors, le prof de kendo, il a une espèce de petite moustache hitlérienne. voilà. Et il a Jackie Chan dans son équipe.
Oui.
Il a le sosie parfait de Jackie Chan,
Drunken Master.
Ouais, Drunken Master, il a le Jackie Chan des années 80 avec lui. Donc, voilà. Donc, à partir de ça, ça donne une espèce de foutoir hallucinant. Qui est moins bon que le premier Meatball Machine, qui était un peu plus dark quand même, et puis bon, il y avait des designs plus élaborés. Mais là, c'est vrai qu'on a effectivement cette présentation de 20 minutes sur le sens de la vie, sur ce mec qui nous l'a refait à la Ikiru, et ensuite, à partir de la seconde où on a cette cloche qui arrive sur Terre et que les effets gore sont déclenchés, bah, ça y est, on part dans le gonzo, dans le sushi typhoon like. Quoi.
Voilà. Ouais, c'est ce que j'ai bien aimé justement, c'est qu'il y a ce côté sous-texte politique, entre guillemets, mais que Nishimura n'oublie pas de se battre, enfin, de créer un espèce de monde à la Battle Royale, qui rencontrait, je sais pas, des Sentai ou des mecs qui ont des pouvoirs et tout. Et ce qui est intéressant et surtout galvanisant, c'est la mise en scène et la liberté de Nishimura à mettre en scène des combats et des affrontements totalement fous. Mmh. Et il le fait assez bien en fait. Et je trouve que le film était assez virtuose de ce côté-là, parce qu'avec peu de moyens, mais avec vraiment pas beaucoup de moyens, je crois qu'ils font les films pour 70 000 euros, quelque chose comme ça.
Ah, c'est rien.
Non, justement, lui et Nomura Higuchi, ils tournent à ce genre de budget. En ce moment, et il arrive à vachement capter, vachement bien mettre en scène l'action et à nous tenir dans son récit, et malgré tout à apporter une espèce de lecture politique qui vient enrober le tout, et nihiliste surtout à l'heure de la fin avec les extraterrestres et ce qui se passe et ce que signifie en fait ce dôme. Et j'ai trouvé ça intéressant comment justement tout ça se met en scène et comment c'est l'action qui est le moteur en fait du récit. En fait, c'est du moment où il y a le dôme, c'est que de l'action et des combats qui s'enchaînent comme ça. Il y a même un peu
un côté western à la 7 mercenaires, un truc comme ça. Même dans la mise en scène, Nishimura joue de ce côté-là, où on les voit se marcher dans la ville et tabasser tout le monde, etc.
Il y a quand même une scène, justement, au moment où il y a le combat sous la cloche, qui est justement une scène qui est tournée à l'extérieur de la cloche, où c'est donc le seul rôle de Amitomite qui fait un petit featuring, et pourtant qui est au 3e ou 4e rang au niveau des crédits dans le film. Genre qui pose sa main sur le dôme, et que, quand les humains qui sont à l'extérieur du dôme posent leurs mains dessus, il y a un message qui arrive, ouais. Qui est un peu le message de leur âme, et c'est là où il remet une couche du côté moralisateur qui, je trouve...
C'est pas trop moralisateur, ouais.
C'est en assez gros, c'est tous les punks et les délaissés de la vie qui disent « je suis pas bien dans ma peau, j'ai envie de me suicider » et tout.
Oui, mais c'est le côté un peu sonotion qu'il n'y avait pas avant, justement. Et genre, mais justement, la présence d'Amitomité, c'est une signature sonotionesque à présent.
Il a, mais justement, c'est pas inintéressant, mais je me demande si ça sert vraiment le film, parce qu'au final, c'est pas un film qu'on va voir pour son message politique, etc. Ah bon ?
Mais si !
On va quand même le voir pour voir de l'action totalement foutraque, etc. Et de ce point de vue-là, je l'ai trouvé moins inventif, moins créatif que Tokyo Gore Police, par exemple.
Bien sûr. C'est
les scènes d'action sont quand même... Il y a moins d'argent. Donc, effectivement, ça explique en partie. Mais voilà, les Meatball Machines, finalement, on se ressemble un peu toutes. Effectivement, il y a des variantes. Les combats sont assez... assez maladroit, on voit pas trop ce qui se passe. Bon, des fois, c'est vraiment drôle. Notamment, là, une scène où la jeune libraire, donc, elle dompte une de ses machines slash scooters avec son
soutien-gorge. Parce que son obsession, c'est sa voiture.
L'arrière-plan en fond vert est absolument dégueulasse. Ça fait partie du charme du truc. Non, il y a un certain... Il y a quelque chose d'assez
suffisant. Arrête de troller, t'as un truc à dire qui est frais que tu ne dis plus aussi.
Non, c'est dégueulasse. Il y a
des hommes qui mettent ça rigolo. C'est hallucinant.
Il y a un côté séduisant, vraiment, à ce côté...
Regarde-moi, il se prête à fond, moi.
À ce côté, ce monde main, et ça fait vraiment partie du charme du film, et on sent que c'est totalement assumé. Mais c'est vrai que voilà, on est moins dans l'inventivité, et personnellement, j'ai été un petit peu déçue.
Très bien.
Et ben,
très bien.
On reste. Non, mais je l'ai pas vu, donc je peux pas commenter. On reste sur le Japon avec Destro Family de Kobayashi Yuki. Kefren.
Ah, encore moins.
Bah ouais, c'est tout le temps toi. T'as eu la chance d'arriver tôt pour préparer le podcast.
Dis du bien du film, après on le défonce.
Non, d'ailleurs, vous n'allez pas
le dire. Parce que je sais que Nico n'a pas aimé, donc je lui laisserai la parole après.
Et donc, Destro Family de Yuki Kobayashi. Yuki Kobayashi qui est un peu le disciple de Nishimura, d'ailleurs qui...
Ah oui, parce que le film est en partie produit par Nishimura.
Et que Nishimura l'a trouvé dans un festival...
J'ai peur de la suite, il l'a trouvé où,
Le réalisateur, pas le film.
Dans un festival de province où il avait gagné un prix avec son premier film.
Oui, parce que c'est donc un second film pour le réalisateur qui a 27 ans.
Oui.
Kamikaze Cowboy, son premier film.
Oui. Et voilà. Et justement, on ressent un peu l'influence de Nishimura plus tard dans le film. Mais ça parle de quoi ? Ça parle d'un.
J'ai même plus besoin de poser la question, c'est génial.
Ça parle d'un jeune Yakuza et de son frère qui d'abord va en prison à la place de son frère. Parce que c'est la loi dans leur famille, enfin ils décident de se sacrifier et tout, et à son retour de prison, il entreprend de maintenir à flot sa famille à travers différentes combines qu'il entreprend avec son frère et qui vont mener toute la famille à vivre une espèce de trip d'aventure meurtrière ou qui va durer tout le métrage en fait. Et ce pourquoi j'ai aimé ce film, c'est justement qu'à partir de cette idée basique un peu, il déploie une sorte de folie et de caractère décalé du Japon qu'on n'avait pas vu depuis au moins les Takashi Miike ou les films de Toyoda des années 2000. Du début des années 2000. Et ce côté que j'aimais qu'il revienne avec ça et qu'il ose à peu près beaucoup de choses, même des fois sans raison, mais qu'il ose qu'il y ait ce vent de folie
99%
qui, justement,
raison,
est cohérent par rapport au film parce que l'origine du film, ça vient d'un fait divers. Et ça veut dire que tout ce qui se passe dans le film est à peu près vrai, enfin dans les personnages et les meurtres sont réels. Mais tout ce qui se passe après, c'est de la pure fantasmagorie, de la folie. Et c'est ce qu'il met en scène, c'est-à-dire que c'est la folie des personnages et leur propre vision un peu cauchemardesque de cette virée meurtrière qu'ils ont fait cette nuit et qui les a tous menés à leur perte. Et c'est intéressant parce que tout est fait sous drogue un peu. C'est une sorte de Las Vegas parano yakuza en fait. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est que même le monde qu'il met en scène est totalement décadent, délirant. Par exemple, juste quand il marche dans la rue, il voit des gens sur le sol, comme ça on ne sait pas pourquoi, avec des gens attroupés, et on ne sait pas pourquoi, ou un jour, ou un moment, il va dans un motel, et tout d'un coup, il y a un mec qui sort et qui commence à vomir par-dessus la fenêtre. Et tout le monde est décadent comme ça. Tout l'univers est dans une folie comme ça que les personnages emmènent partout où ils vont. Et c'est ce que j'ai bien aimé, c'est cette mise en scène de cette folie.
Nicolas, la contradiction arrive.
En fait, il y a...
Alors, je tiens à dire quand même qu'il s'était bien fait chier pendant le film parce que tu soufflais beaucoup.
Ouais, non, mais c'est juste qu'en fait, je vois le côté...
Parce qu'il est malade.
Le côté délirant, décadent que le réalisateur a voulu amener. Sauf que, en fait, dans le côté... en fait, un film qui se veut foutraque, délirant, qui part un peu dans tous les sens... il faut qu'il y ait de la maîtrise derrière. Et c'est la maîtrise qui donne cette impression qu'il n'y a pas de maîtrise, en fait. Et pour moi, c'est là où le film ne marche pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune maîtrise. Soit narrative, soit au niveau de la mise en scène. C'est-à-dire, ok, c'est bien de dire, tiens, ouais, bon, d'un seul coup, je vais faire un petit split screen, ça sert à rien, mais ouais, c'est cool, tu vois. Et en fait, il y a plein de trucs de mise en scène repris.
C'est la folie, c'est l'absurde.
C'est un peu de la recompte, par moment.
Voilà, il recompte carrément des certains trucs, des fois, mais t'as l'impression qu'il y a.
Le mec
s'est dit, ouais, je vais faire ça là, parce que, tiens, j'ai l'idée à ce moment-là, donc je vais le faire, tu vois.
Bah oui.
C'est au montage. En fait, c'est un film de post-production, t'as l'impression, des fois, où il rajoute des effets de montage, machin, où il dit, ouais, tiens, je vais faire ça là, c'est cool.
Mais
c'est cool. Et en fait, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de direction, de signification, en fait, dans de le faire à ce moment-là ou pas, quoi.
Mais c'est justement ça le cœur du film.
Ça me fait
il part d'un postulat où des gens ont fait ça pendant cette nuit, et c'est totalement fou. Et il se dit, mais comment mettre cette folie
en scène? Ouais, mais le problème, c'est que même dans la mise en scène de cette folie, c'est super répétitif, en fait.
Mais non, c'est pas
répétitif. T'as 15 scènes de strangulation, au moment, on avait compris que le mec kiffait étrangler les gens, tu vois.
Et
il a même fait, c'était le plus intéressant de le film, d'ailleurs, c'était toute la.
Mais c'est pas répétitif, d'un seul coup, moment.
Mathieu Vaughn, il aime bien les fesses, il est filmé en
une scène, hein. C'est pas qu'il kiffe, c'est qu'il a pas le choix, c'est que c'est le seul mec de sa famille.
C'est lui le seul qui
est obligé d'agir.
Mais oui.
C'est ça le truc, c'est pas
qu'il. Et c'est compliqué de tuer quelqu'un.
Pas du héros. Ouais, mais c'est mon truc, le personnage n'a pas le choix, c'est le seul mec qui est dans l'action. Tous les autres lui font le truc sur le dos.
Ouais,
ça c'est vrai que c'est intéressant, mais en fait le problème c'est que c'est vraiment répétitif, en fait.
C'est pas répétitif.
40 fois la même scène.
Mais à un moment, il y a un fantôme qui apparaît dans le film, comment tu dis que c'est répétitif? Tout d'un coup, il commence.
L'argument apparaît.
T'as l'argument apparaît avec un fantôme. Il y a un fantôme.
Non, mais à un moment, il commence à avoir des visions, c'est-à-dire qu'on descend, il y a un côté progressif, il y a une ascension dans la soupe.
Mais ça tombe pas comme un jeu dans la soupe.
Le moment où il a la vision, c'est justement le moment où il va commettre un acte irréparable.
Oui, mais justement, en fait, je suis assez d'accord avec Nico, ce qui est assez fou, parce que le film techniquement fait sens, et en plus s'inspirer d'un fait réel. Si on y réfléchit, oui, enfin, il y a un scénario, mais malgré tout, il y a vraiment cette sensation que c'est incohérent. Déjà d'une part parce qu'au niveau du montage, bon, on n'est pas très sûr de ce qui est fait, et par exemple cette apparition du fantôme, oui, ça pourrait être intéressant, mais c'est pas du tout exploité, ça arrive.
Mais
comme
si c'est
ça
exploité.
On pourrait penser qu'il y a une...
Mais ça empêche un personnage de mourir au moment de
la parole.
On pourrait penser que ça la continue. Non. À ce moment-là, moi, je me suis dit, ça va peut-être amorcer une descente en enfer, on l'a déjà vu, etc. Mais en fait, non, enfin, il apparaît une ou deux fois, il n'y a pas vraiment... on est déjà à la fin du film, il n'y a plus vraiment de développement à partir de là, on se demande un peu ce que ça fait là. Bon, c'est pas dramatique non plus que ça apparaisse, pourquoi pas, mais je le vois pas comme un atout du film, et effectivement, il y a beaucoup de choses dans ce film dont on sait pas trop pourquoi c'est fait. Il va y avoir une ou deux bonnes idées, mais elles vont être jetées au milieu, totalement déconnectées du reste. Et à côté de ça, il va y avoir des choses qui donnent vraiment un sentiment de gratuité. En personnage, par exemple, de nain. Pourquoi un personnage
parce
de nain
marrant,
si c'est pas pour mettre un personnage de nain, parce que c'est drôle.
Oui, mais c'est drôle.
Donc voilà, c'est ça. Et on sent vraiment cette idée.
Il est plâtré pendant tout le film dans son lit.
On sent vraiment le type qui a voulu faire un film cool. Il a voulu faire un film cool. Et il a mais pris voilà, cool. plein d'idées
mais
comme
pourtant,
ça.
Je suis pas le premier à. Mais c'est pas le dernier à kiffer les films cool pour que ce soit cool.
C'est méga mais c'est pas cool, mais là, c'est pas cool du tout. Non. Mais il n'y a aucun personnage dans le film qui est iconique.
Mais le problème, il n'y a rien qui est iconique. Mais non, justement, c'est ça où le.
Aucun moment,
c'est le côté un peu anti-héros.
À aucun moment, il te fait un plan cool ou que même il te montre les mecs comme étant des gens cool.
Mais non,
jamais de la vie.
Justement,
à aucun moment dans le film,
non, c'est là où c'est contradictoire, c'est que. Il, dans l'écriture machin, il veut pas faire des personnages cool, mais à un moment il te fait des effets cool.
Mais c'est quoi un effet cool quoi.
Non mais attends, Kefren. Bah, oui. Nico défend le mec qui veut faire le truc cool.
Mais oui, mais
Nico.
non mais attends, pendant un split screen, juste parce qu'il fait un split screen, c'est cool.
Bah là, il y a aucun. Parce qu'il
fait un split screen,
c'est cool. On peut pas le mal alors, c'était cool.
Pourquoi faire un split screen à ce moment-là?
Super. Parce qu'il a envie.
Une raison.
Mais parce que c'est totalement absurde, comme à l'image de tout le film est absurde.
Ouais, mais alors on peut tout faire, comme ça.
Mais on peut tout faire dans le cinéma, c'est ça qui te prend.
On sort pour Gatorio. C'est bon,
voilà.
Ça. C'est
mais c'est ça dans le film. Il te montre qu'à travers cette virée meurtrière, qu'est-ce qui n'est pas impossible? Si des gens ont pu faire ça, alors qu'est-ce qu'on peut pas faire?
C'est tourné quoi.
Après, ça bite sur scène. Et on l'a fait.
C'était lui donc.
C'est puéril. Voilà.
En fait,
c'est pas puéril. Un film complètement puéril.
Montrer sa bite. Kingsman, c'est puéril ou pas?
Ah voilà, j'en ai
c'est un gamin. J'ai l'impression que c'est un gamin de 12 ans.
Non mais attends, mais oh là là, Nico! Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça.
Mais c'est pas possible.
Crédible, mon gars.
J'avoue,
pas crédible.
J'avoue que c'est pas trop crédible.
Pas crédible. Tu as adulé un film où le mec dit, la meuf, elle dit, si tu me sauves, je te donne le droit de m'enculer.
Oui, parce qu'il y a un
peu de temps. C'est ça, Nico, j'aime Kingsman,
c'est un décalage dans cette séquence que toi, tu ne veux pas voir.
Mais là,
tout le
monde.
Là, il n'y a pas de décalage.
Tout le film est dans l'absurde et dans le décalage.
Mais moi j'adore l'absurde, le premier à défendre les films complètement absurdes, cons.
Mais alors pourquoi tu défends pas ce
là,
film
là? Mais même dans l'absurde, c'est pas drôle, c'est pas inventif.
Mais c'est pas censé être drôle, on te montre des gens qu'on fait, qui
se. Mais pour moi l'absurde c'est drôle. L'absurde ça doit être drôle.
Mais moi l'absurde c'est pas censé être drôle.
Bah si.
Non, l'absurde ça peut être malaisant.
L'absurde ça peut être malaisant.
Ouais, mais
c'est vrai.
Malaisant, triste ça peut être.
Mother c'est un film absurde et c'est pas drôle par exemple, si on veut parler de l'actualité. C'est pas drôle.
Le moment où ça fait vraiment rien, Mother. Personnellement, mais.
Si ouais. Tu rigoles contre les films ou des films, c'est ton choix, mais.
Je vous propose de tenir le débat sur qu'est-ce que l'absurde dans un prochain podcast.
Ah, ouais, mais c'est de la mauvaise foi, donc.
Non,
c'est pas juste pas aimé, mais.
C'est
juste
quelqu'un même de trois quarts de nos interventions.
Moi, j'ai pas vu le film, mais je suis du côté de Kefren.
Mais t'es toujours du côté de Kefren.
Tu vas détester le film, mais toi, tu vas détester son film en plus.
Mais c'est pas un film fait pour être cool. Il y a aucun effet. Il te montre juste l'absurdité.
Les thématiques, la strangulation, les trucs comme ça. En fait, le film est à l'image de lui qui
va être. La strangulation, c'est cool.
Est-ce que vous pouvez laisser parler Lila et terminer sa phrase?
Pourquoi il fait une scène de strangulation de 10 minutes, quoi?
Parce que justement, parce qu'il te montre que c'est absurde, qu'il n'arrive pas à tuer le mec, que c'est pas facile de tuer.
Bien, en fait,
mais
en
non,
fait,
c'est pas drôle. Mais c'est pas drôle. Après, ils vont.
Mais même, en fait, dans ce genre de scène,
c'est absurde.
Bah,
c'est tout. Tu peux rigoler, mais c'est pas forcément
t'as
drôle.
T'as une rythmique. T'as
pas une rythmique. Y a pas de manuel de cinéma. Y a pas de comment on fait les scènes.
T'as étiré la scène.
Mais non, t'es pas à la du cinéma. Y a pas de devoir.
Non, en fait, on vous entend absolument plus.
Tiens ton homme.
T'as une manière d'étirer la scène. Qui va provoquer un malaise.
Non, mais non, il n'y a pas deux. Il y a pas
deux. Nicolas.
Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux.
Mais quand ça dépend.
Nicolas.
Mais je peux finir ma phrase, merde. On est là pour débattre ou merde.
Ah, t'as vu quand c'est Victor, tu fais pas ça, mon gars.
Pas ça, hein.
Mais ça me casse les couilles. Depuis tout à l'heure, on peut pas.
Incroyable ça.
Mais vous vous coupez, c'est pour ça que vous n'avez pas terminé. Depuis 3 secondes, il parlait plus. Termine ta phrase, alors.
Donc, je disais, quand tu veux faire une scène où tu étires la scène pour provoquer un effet, comique, malaise, machin,
tais-toi,
t'as une rythmique à suivre quand même pour que ça que ce soit pas un moment ennuyant, chiant, ou que t'en aies plus rien à foutre, ou machin. Et bah, lui, non, en fait. Il y a un moment, il connaît pas le rythme, il connaît pas le. Je sais pas, la construction narrative qui va faire que.
Il a pas le rythme dans la peau, quoi.
Voilà, quoi. Il y a pas de.
La en fait, dans,
à, tout niveau, à tout niveau dans ce film. Il n'y a pas de réflexion en fait.
Mais si, justement.
Non.
Tu le dis pas, mais il y a plein d'effets.
Il y a une idée directrice. Et après, en fonction de cette idée directrice, qui est bah vas-y, cette histoire de famille, c'est n'importe quoi, machin, bah je vais faire n'importe quoi. Sauf que moi, personnellement, j'avais. Enfin, au bout d'un moment, ça m'a gonflé, quoi. C'est pas. Ça m'intéresse plus, quoi.
Mais voilà, mais il dit ça.
Ah bah voilà.
Et il a dit.
Mais qu'il dit que c'est bon, que c'est pas réfléchi, c'est une chose différente de dire que ça l'a gonflé ou ça l'a pas intéressé.
Bah.
Bon, bah, je pense qu'on a tout dit sur ce film qui a apparemment fait débat. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec vous, je fais un consensus.
Vous, ça veut dire qui?
Bah, nous tous. Vous tous.
Et comme chaque année à l'Étrange Festival, on avait droit à un film de Sonotion, qui était un film très attendu, même s'il nous a, ça nous a un petit peu effrayés au début, puisque c'était le montage cinéma de sa série Tokyo Vampire Hotel, donc diffusé par Amazon Japan. Au début, on a cru que c'était la série, après on s'est rendu compte qu'en termes de durée, ça pouvait pas être la série. Donc on a compris qu'il y avait un montage ciné. Kefren nous a rassuré en disant, désolé je balance, que c'était le montage voulu par Sonotion, donc on s'est dit ouais, ça va être top. Et on a regardé le film. Et Kefren. Déception ?
Oui. Bah...
tu as le droit de pleurer si tu veux.
Non. Mais donc, il y a plein de trucs à dire.
De quoi ça parle ?
Oui, bah
de
du coup, ça ça du coup la série, pour être plus précis, genre c'est un montage du premier épisode et pour la première heure c'est le premier épisode et la deuxième heure c'est un patchwork des 10 autres en fait. Genre en une heure il arrive à compiler genre
8 autres.
C'est pas 8, tout, 8, 8,
je crois qu'il y en a,
tout à fait vrai. 9 épisodes.
La première heure c'est un patchwork du premier et du second épisode.
La première heure c'est le premier épisode. J'ai regardé en fait.
Oui, mais le premier épisode. Le premier épisode dure 25 minutes donc je veux bien qu'une heure fasse 25 minutes, mais c'est pas possible.
Vous embrouillez pas les
gens. Il y a une introduction qu'il a rajouté apparemment.
Oui, oui.
L'introduction, c'est même pas 5 minutes.
Oui,
bon.
Oui,
c'est vrai. Bon, est-ce que c'est vital?
C'est un montage du premier.
En fait, c'est un montage du premier.
C'est un montage
de la série.
C'est un montage du premier, du deuxième épisode.
Bon, et c'est bien ou pas?
Où il n'y a pas de coupe, où c'est vraiment du copier-coller. Et ensuite, à partir du troisième épisode où ils sont dans l'hôtel, là, il commence à y avoir un montage parallèle et une fin qui n'est pas la même que dans la série, avec des personnages en moins.
Mais vous avez toujours pas dit de quoi ça parle.
Alors, bon, ça parle de quoi? Ça parle de
la guerre des vampires entre les Dracula et les Corvins.
Les Corvins, voilà. C'est une guerre qui a lieu depuis la nuit des temps, apparemment.
C'est quoi les Corvins?
Et les Corvins, c'est une autre famille de vampires. C'est genre les nouveaux vampires.
C'est Twilight.
Voilà, c'est genre Underworld Twilight, tu vois. C'est genre, il y a les anciens vampires qui sont là depuis la nuit des temps.
Ouais, c'est comme les chiites et les sunnites, tu veux.
Ouais. Ah, attention.
Attention, les sunnites. Sans Godwin.
Mais donc, ouais, et genre, et en fait, entre temps, les Japonais se retrouvent Mélassa parce que il y a des étudiantes japonaises, et qui sont jouées par Kao et j'ai oublié le nom de l'autre actrice, bref. Et genre, elles viennent étudier en Roumanie, et.
Ce qui est normal, ça, le beaucoup de Japonais à Bucarest.
Non, de toute façon, ils viennent étudier partout, donc pourquoi pas en
Roumanie. Il y a une forte communauté à Bucarest.
Oui.
Une communauté vampire.
Jérémy l'expert.
Et donc en Roumanie elles se font initier en se faisant mordre par des vampires et tout en visitant un château etc blablabla et donc l'une des héroïnes qui est jouée par Kao qui s'appelle K doit revenir au Japon pour trouver l'une des enfants de la prophétie qui est censée détruire les Dracula et la famille.
C'est pas l'inverse, c'est pas censée détruire les Corvins.
Oui, elle est censée. Non, elle est censée détruire. Ah oui, elle est censée détruire les Corvins.
C'est
oui.
Dracula.
Oui, parce que les Dracula viennent de Roumanie, pardon.
À la décharge de Kefren, c'est quand même un peu bordélique.
Mais c'est pas grave, en fait, on s'en fout de l'histoire.
Franchement, la
vraie histoire du truc, c'est qu'il y a un hôtel après à Tokyo qui vient de faire son ouverture
c'est une passerelle entre les deux pays.
Voilà, c'est une passerelle entre la Roumanie et le Japon.
Entre traditions et modernité.
Oh, qui est une passerelle contre la Roumanie et le Japon et qui est là pour servir de vivier à la chef des Corvins qui est une japonaise qui est la comtesse Batory au Japon.
Non, qui est la sœur de
la comtesse Batory, et donc ils invitent des gens à l'hôtel pour servir de nourriture pour oui, à l'hôtel. Donc.
C'est des Roms ou
non, non, mais il y a de nourriture à l'hôtel, parce que l'hôtel se nourrit
en fait. L'hôtel est vivant, c'est l'un
l'hôtel des meilleures idées du film.
C'est l'une des meilleures idées.
L'hôtel, c'est l'une des. En fait, c'est le corps de la vampire Corvin II, la chef de vampire.
De Batory.
J'ai compris, c'est pas grave.
Non, c'est l'expérience.
C'est plus narratif,
c'est
ça.
Mais c'est un peu ça, quand on condense 9 heures, en fait, on 1 heure ou 2 heures. 2 heures. Je crois que.
C'est un peu le danger, ouais.
Et donc, tout le film se déroule, en fait, en huis clos dans l'hôtel. la majeure partie du film se déroule dans l'hôtel.
À part des jolis flashbacks en Roumanie.
Oui, avec les jolis flashbacks. Oui, il y a une jolie actrice roumaine.
C'est le point positif des flashbacks en Roumanie. Oui.
Et elle chante bien aussi.
Ouais, enfin, quand t'as 4 fois de suite la même chanson, au bout d'un moment, c'est.
Non, mais et donc dans l'hôtel après.
C'est Ozone, c'est qui?
Non, mais... On n'a pas encore fini le résumé du film. Hein.
Non mais du coup.
En fait, on va passer à la vie, je crois, parce que.
Bon, et du coup, dans l'hôtel.
Parce qu'avant, ils partent en Roumanie dans des souterrains quand même. Hein.
Ah, les grottes.
Oui, oui. Non mais arrêtez. Non mais dans l'hôtel, du coup, après, il y a les humains qui sont invités, et donc les humains tentent d'échapper à l'hôtel, pendant qu'en même temps, il y a la garde des vampires qui est allée.
La 90e minute.
Là, il y a la version hardcore de The Lobster où on leur donne 10 minutes pour se mettre en couple où ils meurent.
Mais voilà.
Mais, et donc, ils doivent coucher ensemble en plus.
Et donc le film raconte ça de comment les humains essaient d'échapper à cet hôtel pendant qu'en même temps il y a une guerre de vampires millénaires.
Sachant que le monde va être détruit.
Et que, non, que le monde est détruit au début.
Moi je pense que c'est en fait.
C'est parce que le film se déroule dans l'hôtel parce que justement le monde est détruit et qu'il reste que les vampires.
On sait pas s'il est détruit.
Sinon on peut pas juste dire que c'est une histoire de vampires dans un hôtel à Tokyo. Hein.
Mais, enfin, non, mais en réalité, oui.
Parce que vu que le début se déroule à Shinjuku, Kabukicho. Oui. Là où est cherché Amito Mite, oui. Et qu'il y a presque une demi-heure qui se passe uniquement dans Shinjuku.
C'est un film de Yakuza en fait.
Tout à fait.
C'est un film de Yakuza de vampire dans un hôtel. Voilà, en fait.
Et sinon, t'as aimé?
Non. Sinon, moi j'étais gravement déçu. Parce qu'en fait, le rythme du film est une sorte de bricolage.
C'est pas un film.
Une sorte de bricolage, voilà, juste un tout petit peu bricolé. Quoi.
Justement, c'est pas un film, justement. C'est un espèce d'objet comme ça, semi-narratif. Mais par contre, on retrouve vraiment l'esthétique de Sodosa. À des moments, il y a vraiment des beaux moments dans le film. Et des belles idées, ou même il filme super bien certaines actions, etc. Mais
et très beau décor aussi.
Oui. Ouais. Mais en fait, il y a toute l'esthétique de Sodension comme on l'aime et tout. Sauf que le montage rend la chose redondante, ou même des fois abjecte, ou chiante, ou.
Abjecte.
Ou juste.
De l'abjection, donc dans.
Oui. Oui, mais genre, le personnage par exemple de Amito Mite.
Ah, parlons-en d'Amito Mite.
Le montage ne lui accorde aucun crédit, c'est-à-dire que. Le montage que l'on voit du film nous donne une espèce de caricature d'un personnage Sonosuda, c'est-à-dire ce personnage qui avait souvent, c'est la fille détruite comme ça qui se rebelle contre le monde. C'est depuis Love Exposure, même depuis Suicide Club en fait, c'est le motif de Sonosian, de son traitement des personnages féminins, surtout des jeunes filles. Et du coup, elle est juste un avatar de ça, mais comme le montage lui donne aucune profondeur, on a juste des lieux communs de Sonosian, on la voit courir toute seule dans la neige, ce qui avait presque
c'est comme c'était nul, cette
ce qui avait déjà dans Anti-Porno, en vachement mieux ici, en vachement mieux fait, on la voit pleurer avec sa famille, etc. Blablabla.
Et pendant une heure de film, on la voit hurler, ne pas réussir à marcher.
Et la première heure est un peu insupportable, vu qu'on la voit courir.
La deuxième aussi est insupportable, hein, parce qu'on la voit juste hurler.
Oui,
mais la deuxième,
il se passe d'autres
choses. Elle pleure aussi. Elle chouine aussi, effectivement.
Oui, mais la deuxième, il se passe des choses en parallèle, alors que la première heure, c'est juste elle qui court, qui essaie d'échapper à une fille qui lui répète la même chose pendant une heure, et elle comprend pas. Après, il y a une bonne scène de fusillade à Kabukicho qui est vachement bien, de voiture et avec un plan séquence, etc. Mais tout le film souffre comme ça d'un truc bâtard de bricolage et qui en fait ne fait que desservir toutes les idées qui fleurissent tout au long du métrage.
Ouais, c'est vrai le pire, je crois qu'on est tous d'accord en fait sur ce film, j'ai l'impression.
C'est vrai qu'il y a de bonnes idées, mais c'est vrai que le film est complètement mal foutu au niveau du montage. Mais moi, il y a une idée que j'aime bien dans le film, c'est justement cette idée quand ils sont dans toute la partie de l'hôtel, de l'hôtel qui est un monde en soi. Moi, ça m'a fait penser à la bande dessinée de Enki Bilal, 32 décembre. C'est le deuxième tome de sa tétralogie sur le sommeil du monstre, où justement, il y a une soirée qui est organisée par une sorte de maître du mal, qui est une sorte d'avatar d'Andy Warhol, qui réunit beaucoup de personnes et pour ensuite faire une sorte de meurtre de masse pour que tout le sang qui est déversé délivre un message une fois que tu regardes la pièce vue d'en haut. Ça écrit un message. Et moi, j'ai trouvé que c'est une sorte de happening, en fait, de happening complètement maléfique. Et dans cette scène, enfin, qui fait quasiment la moitié du film, qui se passe dans cet hôtel, c'est une sorte de happening. Et d'ailleurs, c'est un happening de la fin du monde, mais un happening aussi du renouveau, puisqu'ils veulent renouveler le sang de leur vampirisme total, quoi. Et ça, j'ai trouvé l'idée vraiment très intéressante, sauf que ça aboutit sur finalement du vide, et aussi que, vu que c'est un mélange, enfin une sorte de raccourci de tout ce qui s'est passé dans la série pour Amazon Japan, le montage est tellement à chier que finalement, en fait, il y a des idées qui virevoltent de temps en temps, mais on ne peut pas attraper la balle au bon parce qu'il y a un problème de rythme et finalement, le film est beaucoup trop long et ça n'amène à rien malgré ces bonnes idées qui sont vraiment du pure solution. Quoi.
En fait, pendant tout le film, il y a des flashbacks qui arrivent un peu à n'importe quel moment quoi, pour connaître un peu le passé de chaque personnage. Et à chaque fois, tu sais que ça vient d'une série parce que tu les vois, ces flashbacks, comment ils doivent être placés dans la série, à quel moment. Et à chaque fois, c'est ce genre de truc qui marche pas dans le film, qui va allonger le rythme et qui va te sortir du film.
Bah, tout comme les redites, en fait, qui marchent très bien en série, mais qui marchent pas
en film. En fait, à plusieurs moments, tu dis, tiens, mais ça, comme dans l'épisode de la série, ça doit être comme ça, placé comme ça, mais sauf que là, ça marche pas comme c'est fait dans le film, quoi. Et pareil, tu sens qu'en fait, Sonotion, il a essayé de reprendre beaucoup de choses de sa filmographie. Tu penses à beaucoup de films, Wedding Chunpei et elle pour la fin, par exemple, ou Love Exposure, enfin même Guilty of Romance pour...
Anti-porno pour les décors, voilà,
chromatiques. Guilty of Romance, tu vois, il y a beaucoup de choses. Et voilà, tu sens qu'il a essayé, à travers ce média-là, de faire un truc somme, mais ça... C'est trop somme.
En fait, du coup, ce qu'on t'a dit, c'est vraiment le montage qu'on a vu à l'étrange festival, mais qui quand même donne envie de découvrir la série, parce que esthétiquement, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Moi, j'aime beaucoup la manière dont il représente les vampires, c'est-à-dire qu'il prend une espèce de condensé de toutes les itérations qu'il y a pu avoir des vampires, des vampires romantiques issus du XIXe siècle, jusqu'à Nosferatu, par rapport au devenir du personnage principal, au devenir monstrueux, donc de la jeune fille, et finalement il condense tout ça. On montre aussi des vampires modernes, dès qu'on peut les voir dans les Sushi Typhoon, on y pense aussi. Donc,
dans Blade 2,
dans Blade 2, effectivement, il reprend ces vampires
des
mâchoires immenses. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant dans le fait de faire un espèce de condensé là-dedans. Après, effectivement, le montage dessert complètement le propos, qui devient un petit peu inaudible dans tout ça. Et on a l'impression que Sonotion a juste pris les images qui l'avaient marqué un peu dans la série, à faire une espèce de best-of en disant, tiens, bon, bah, ça j'aime bien, telle image, je vais la mettre là. Donc c'est un peu monté n'importe comment, mais c'est une bonne bande-annonce quand même pour la série.
De 2h20.
De 2h20, mais du coup qui donne envie quand même de la découvrir. Donc, bah, moi, ça m'a
ceci dit, sur la figure du vampire, moi je suis un peu en désaccord avec toi, parce que moi je trouve qu'il n'apporte rien de nouveau, et qu'au contraire, c'est une sorte de parodie de la représentation des vampires au cinéma, avec les gens qui crient et qui montrent les dents à chaque fois, avec des faux ongles qui sont vraiment...
ils étaient moches.
Vraiment, enfin, c'est un peu fake. Et c'est cette façon de... Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'ils montraient les vampires, ils les montraient juste en montrant les crocs et en criant. Et je trouvais que c'était un peu faiblard au niveau de la représentation du vampire à l'époque.
Il n'y a pas que ça. Quand on voit que l'hôtel lui-même est un vampire, en fait, et un organisme vivant, du coup, c'est une nouvelle manière de montrer aussi les vampires. Mais en fait, ils montrent finalement tous les vampires qu'on a eu depuis un siècle et demi, à peu près, au cinéma, en littérature.
Je suis un peu d'accord sur le côté parodique de certains vampires, notamment le vampire classique, romantique, qui quand même est méga kitschouille, quoi. Mais plus kitschouille que ça, tu meurs.
Mais c'est pas dit qu'il s'en moque pas un peu aussi.
Et là, c'est plus s'en moquer, en fait. C'est le ridiculiser, quasiment. Alors, je sais pas si c'est si le Japon est une représentation de l'Europe, en fait, pour les femmes, avec des robes à foufou de Louis XIV, en fait, totalement anachronique, ou le vampire roumain qui en fait, je sais pas où il l'a chopé, ouais, celui-là,
c'est
en fait.
C'est le côté byronien, quoi, tu vois. Ouais, mais
il a l'air méga con, quoi.
Un peu raëlien aussi, quand même.
Il a l'air méga con. Mais enfin, j'ai eu l'impression qu'il se foutait quand même un peu de la gueule, ce qui est possible, hein. Peut-être qu'il se fout de la gueule,
mais
en fait,
de l'autre côté,
il
y a le garçon, par exemple, du personnage de Kai et de ses amis, qui sont ultra cool, ce genre... les vampires les plus cools t'as vu de ta vie, genre les meufs on a tous des top modèles et tout, et quand elles sont dans la voiture
oui. Donc il y a juste une certaine catégorie de vampires qui souffrent un peu de cette parodie quoi.
Et là je pense que cette palette de vampires est parfaitement incarnée par le couple qui est formé donc par Megumi Kamisaka qui joue donc Elisabeth Báthory en costume.
Elle est ridicule.
Voilà, mais parfaitement ridicule. On dirait la Reine Blanche dans le Alice au Pays des Merveilles de Burton, qui est tout le temps avec ses bras levés, enfin voilà, qui
danse un petit menuet en fait
voilà,
de temps en temps.
Hyper théâtral avec la robe corbeille, etc. Et donc son copain en quelque sorte qui lui est là en costume rose vif. Avec un côté vachement.
Je pense que s'il y a un remake, ce serait Johnny Depp d'ailleurs qui jouerait son rôle.
Mais voilà, enfin.
Mais qui, de Báthory ou de.
Les deux.
Et voilà, enfin, on est vraiment aux deux extrêmes, mais enfin voilà, c'est ce mélange qui est important, dont on sent qu'il se moque quelque part. Voilà, et on sent que quand même. Enfin, la parodie, dans une certaine mesure, est assumée. Le problème, c'est que comme il n'a pas su élaguer correctement au niveau du scénario, là où on aurait. Où il aurait pu être incisif, en fait, on se demande s'il n'est pas un peu complaisant, et notamment toute une partie au milieu, tant qu'on reste dans quelque chose qui est relativement centré autour de l'action, du spectacle, etc., et des nanas comme ça qui sont cool et qui sont sexy et machin, voilà, on sait ce qu'on vient chercher, mais toute la partie soi-disant scénarisée au milieu, où notamment il retourne en Roumanie pour aller rencontrer le chef des Dracula, etc., finalement, je pense que c'est quelque chose qu'il aurait dû élaguer pour se concentrer sur l'action, parce que en raccourcissant la série, il n'avait pas le temps de faire une histoire compliquée.
Ouais, mais des fois, c'est beau en Roumanie quand même.
Si je ne me trompe pas, d'ailleurs, c'est la première fois où il y a des parodies explicites de films chez Sonotion, puisque il parodie par exemple Scarface, où il cite de manière littérale. Voilà, il y a des références cinématographiques qui sont très assumées. Et donc, c'est la première fois qu'on voit ça chez Sonotion.
Il y avait aussi dans Tokyo Tribe aussi. Enfin, c'était la scène où elle s'habillait quand on Bruce Lee.
Oui, ça. Très bien.
Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est quand on voyait ce que faisait Sonotion. Dans les années 2000, si bien avec Suicide Club que Guilty of Romance ou Goldfish, tout à fait, c'est qu'ils ratent quand même l'occasion de faire peur. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent même pas à faire
peur. Ah là, ils ne cherchent pas du tout.
Et c'est vraiment dommage parce qu'avec le talent qu'il avait pour créer des ambiances poisseuses, des ambiances.
Il n'y a plus cette recherche-là en fait, d'ambiance et d'atmosphère.
Tout ça, c'est jeté aux toilettes maintenant. Et c'est vraiment.
C'est de l'esthétique.
C'est vraiment dommage. Alors, de l'esthétique, ouais, mais c'est vraiment. C'est du porno pour production designer, hein, tellement le film est agréable à regarder parce que c'est des décors, héritage Nikatsu, je sais pas, mais qui ferait damner Seijun Suzuki quand on voit le travail sur les couleurs, ce genre de truc, et on se dit qu'on aimerait bien avoir un artbook des décors dans ce film-là.
C'est une coprode de la Nikatsu d'ailleurs.
Mais voilà, c'est pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette mise en scène toujours très belle des décors de studio, des purs décors de studio de l'hôtel, avec des vrais décors de grottes et tout ça éclairés par des néons. Donc il éclaire toujours ça de façon extrêmement belle, avec beaucoup d'élégance. On a ces plans de drones comme ça qui volent au-dessus des grottes, et il crée vraiment une émotion des fois de l'image et de la spatialisation aussi. Et vraiment l'espèce d'orgie finale, le gros fight qui n'en finit plus, hein. c'est très très jouissif, mais on se dit que ça aurait été vraiment bien que ce final arrive au terme d'une histoire vraiment attachante, à défaut d'être flippante. Mais bon, de toute façon, encore une fois, c'est qu'un digest de l'œuvre, donc mais bon, il y a un côté un peu insupportable dans son actrice principale, hein.
En fait, c'est peut-être la première fois que Sonotion, je me dis, il y a plein d'idées, encore une fois, c'est plein d'idées dans la mythologie, machin, mais il aurait pu faire mieux à Toligno, quoi. Enfin,
oui, il a fait plein de mauvais films. Hein.
Ouais, non, mais je veux dire, il y a plein de mauvais films, mais je me suis jamais demandé, c'est des films où.
Il y a plein de
ceux que j'ai fait.
Il y a pas mal, il y a des loupés, ouais.
Ce mauvais film, c'est. Je m'en foutais, tu vois, je dis tant pis, il a raté, il en fera d'autres, ils seront meilleurs. Mais là, il y avait tellement d'ingrédients pour faire un truc vraiment réussi à tout point de vue, et j'attends de voir la série parce que ça se trouve, il y a ces éléments-là. Mais même au niveau de cette guerre entre vampires. Du côté mythologique qui en ressort, il aurait pu développer ça encore plus et vraiment faire un truc vraiment passionnant, quoi. Il le fait pas, c'est un peu dommage.
Donc on appelle l'équipe, une grande équipe de sous-titrage en fait, va nous permettre de regarder la série et de comprendre quelque chose, s'il vous plaît, pour qu'on puisse savoir si cette série est vraiment bonne ou si la version ciné qu'on a vue est finalement un reflet de la série et qu'elle est un peu à chier.
Et on fait un tomité de soutien.
Voilà, c'est bon. La blague préparée par Fabien depuis une semaine est sortie, c'est bon.
C'était nul.
Non, franchement,
c'était top.
La slow clap.
La prise de pourvue, j'avoue.
Pas mal.
Bismillah.
N'importe quoi.